Chapitre 49. Gengis Khan. La porte du sérail s'était brusquement refermée. Des gardes invisibles, postés dans le couloir, venaient sans doute de la tirer vers eux. Pourtant, ni Zizo, ni Alix, ni aucune des nourricières ne se retournèrent. Tous gardaient les yeux braqués sur le grand écran dans lequel Ogénor était apparu. La voix de l'empereur était amplifiée par les différentes enceintes disposées dans le sérail, qui, d'ordinaire, diffusaient de la musique apaisante ou un fond sonore de cascades d'eau et de vent léger dans les feuilles.
« Mesdemoiselles, chères Zizomis, je dois commencer par vous annoncer une nouvelle qui va vous réjouir. Ma grande armée a été décimée, pas seulement vaincue, battue, non. Elle s'est dispersée dans la nature aussi vite qu'un brouillard sur la Seine un matin de printemps. Il ne reste plus pour défendre le Troisième Empire qu'une poignée de fidèles. Assez pour protéger les derniers moulins sublimes et ce palais, je vous rassure. Vous semblez surprise, mesdemoiselles. Et toi aussi, Zizomis. L'heure est venue, je crois, de vous faire un aveu. En vérité, je me moque totalement de cette bataille sur le Mont Chauve. Et si je veux être vraiment sincère avec vous, mesdemoiselles, je me moque même de ce Troisième Empire. Il peut s'effondrer. Qui le regrettera? Pas les compagnons, pas cette armée grassement payée. Peut-être quelques singes idiots, quelques savants prétentieux, quelques soldats belliqueux, mais pas moi. Le Troisième Empire n'était qu'une étape. Une simple marche pour accéder au nouveau monde nouveau. Ce monde qui sera à vous.
Zizo ne quittait pas l'écran des yeux. Le grand cerf était assis dans son fauteuil roulant dans une pièce qu'il ne parvenait pas à identifier.
Mesdemoiselles,
continuait Ogénor,
je vais commencer par vous raconter une histoire. Une histoire vraie. « Savez-vous qui est Gengis Khan ? Non ? Allons, vous devez bien vous souvenir de quelques cours de notre maman à tous. Gengis Khan a été le fondateur du plus grand empire de tous les temps, l'Empire mongol, il y a un peu moins de 1000 ans. Mais ce n'est pas ce que l'histoire retiendra. Ce dont elle se souviendra, c'est que Khan a eu des enfants. Beaucoup d'enfants. » Et ses enfants ont eu eux-mêmes beaucoup d'enfants. L'histoire ne devient vraiment intéressante que 800 ans plus tard, quand la génétique a été inventée, l'étude de nos origines, si vous préférez, et que les savants du monde ancien ont repéré un chromosome, le chromosome Y, qui prouvait avec certitude que Gengis Khan était le seul et unique ancêtre commun, de 16 millions d'êtres humains. Un record du monde ancien du moins. Mesdemoiselles, les plus malignes d'entre vous l'auront déjà compris, Gengis Khan n'était qu'un amateur à côté du projet que je poursuis. Je vais bâtir un nouveau monde nouveau à partir d'une idée toute simple et pourtant sublime. Supprimer toute vie sur cette terre à l'exception des enfants que vous portez dans vos ventres. Tous les êtres humains survivants seront mes descendants. J'en serai l'unique géniteur. Dans une génération, 10 générations, 100 générations, quand la population de la Terre se comptera à nouveau en millions, tous pourront affirmer avec certitude qu'ils n'ont qu'un seul père. Moi. Et puisqu'on n'a hélas pas inventé l'immortalité, mon esprit, mon sang, ma peau, mes gènes, au lieu de disparaître, se multiplieront, irrigueront chaque pensée de chaque être humain, chaque action, chaque décision. Comme dans les sociétés parfaites, mesdemoiselles, comme dans le socialité, un géniteur unique. La seule solution pour que tous les êtres humains soient frères, pour pour transcender toutes les guerres, pour que chacun joue son rôle, et seulement lui, dans cette communauté solidaire. Une seule et même grande famille, sans ambition, sans trahison, sans jalousie. Qu'en pensez-vous, mesdemoiselles? Vous êtes surprises? Flattées? N'oubliez pas que vos talents, eux aussi, votre charme, vos dons, seront multipliés par millions. Je ne vous ai pas choisi au hasard. Vous portez une lourde, très lourde responsabilité.
Toutes les nourricières fixaient l'écran, tétanisées. Seuls Alix et Zizo se regardèrent, partageant la même conviction. La folie de Génor éclatait enfin au grand jour. Une folie qui semblait sans limite au fur et à mesure qu'il continuait de parler.
Savez-vous, mesdemoiselles, pourquoi Marilune a échoué? Son idée de départ était pourtant excellente, avec ses collègues du laboratoire Utopie. Donner un grand coup de balai et ne conserver qu'une petite élite strictement sélectionnée. Savez-vous pourquoi son projet Néo n'a pas fonctionné? Parce que trop d'enfants ont survécu, tout simplement. Nous aurions été bien assez à 100 enfants du château pour repeupler un monde nouveau. Mais nous étions trop peu nombreux pour lutter contre les autres, les barbares du Tipi, les crétins des autres ethnies, sans parler des Prémas qui, après avoir accepté d'être esclaves pendant quelques générations, auraient aussi demandé leur émancipation. Il n'y a pas d'autre solution, mesdemoiselles. Il faut tout reconstruire. Le carburant qui fait tourner l'humanité est vicié. Il faut le vidanger et le remplacer par du sang neuf, du sang pur. Je l'ai compris très jeune, dès que Marilune a cherché à m'éliminer peut-être, ou dès que j'ai trouvé son sarcophage et que j'ai eu l'idée de me faire passer pour son fils à la place de ses deux idiots de jumeaux, ou quand j'ai enfin découvert, le jour de mes 10 ans, ce laboratoire Utopie. J'ai alors appris l'existence de Céleste, la fille de Silver Forestier, le 3e membre du projet Néo. Une gamine élevée dans la forêt, devenue une petite sauvageonne surnommée par tous Lupo Nero, puis Lupo Nera. Je savais que je pourrais me servir d'elle, tout comme je pourrais me servir de Mordelia et de Chrysante, les deux seules à connaître mon secret après avoir lu le journal de Piersol. Il y révélait le véritable nom de sa fille et de son fils. L'une et l'autre se sont crues plus fortes que moi. Pauvre folle.
Génor écarquilla ses yeux clairs à travers l'écran, comme s'il cherchait à repérer une nourricière en particulier.
Ma seule erreur a été de ne pas t'éliminer avant, Lunella. Comment aurais-je pu imaginer que tu découvrirais ta véritable identité? Après tout, à y réfléchir, c'est sans doute mieux ainsi. Si tu étais morte avant d'être fertile, je n'aurais pas connu cette jubilation suprême. Dans les veines d'un de mes enfants, celui que tu portes, couleront mon sang et celui de Marilune. N'est-ce pas la plus merveilleuse revanche sur le destin? Mais j'ai déjà trop parlé. Le temps presse, vous devez certainement être impatiente de savoir comment la suite de mon plan va se dérouler, même si ce n'est pas très difficile à deviner. Je vais déclencher, dans quelques minutes, les 3 derniers moulins sublimes. J'ai testé, l'année de nos 12 ans, les pouvoirs phénoménaux de cette pandorite, ce fameux sang jaune qui a empoisonné les animaux. J'ai pris soin de faire garder ces derniers moulins, mais il n'est pas impossible que vos petits héros parviennent tout de même à les détruire. Peu importe, un seul suffira à éliminer toute vie de la surface de la Terre. Nous ne sommes pas si nombreux, et celui-ci, le dernier, croyez-moi, personne ne pourra le désactiver.
Zizo se tourna à nouveau vers Alix et lui lança un regard explicite. Ogénor n'était pas seulement cinglé. Son plan était insensé. Celui qui déclencherait ce moulin sublime serait lui aussi contaminé, comme Marilune, Pierre Sol et Silver avant lui, comme tous les autres apprentis sorciers. Il ne survivrait pas plus de 6 ans, 10 ans, même en avalant toutes les pilules de thérapan du monde.
« Je sais ce que vous pensez, »
poursuivit Ogénor comme s'il lisait dans leur cerveau.
« Personne ne peut échapper au nuage de Pandorium, à part en se réfugiant, comme Jacques, dans un satellite au-dessus de l'atmosphère terrestre. Je vous rassure, mesdemoiselles, je ne vais pas m'envoler dans une fusée. J'ai une méthode plus simple pour ne pas être contaminé. Cet hôtel... »
Le grand cerf déplaça la caméra et dévoila à son auditoire la pièce où il se trouvait. Zizo et les nourricières découvrirent une pièce confortable, équipée d'un grand bureau d'acajou et d'un canapé de cuir. Des statuettes de bronze, d'épais dossiers et un bouquet d'immortelles étaient posés sur des étagères de verre. Un salon impérial classique, mais à l'inverse des autres chambres du palais, Zizo n'apercevait aucune moulure dorée sur les murs, aucun lambris de bois, aucun lustre de cristal. L'empereur n'était entouré que de cloisons de béton et d'acier.
« Ce salon ressemble à une banale chambre de travail, je vous l'accorde, mais je vais vous faire une confidence. Je n'ai pas choisi de m'installer dans ce palais de l'Élysée par hasard. » Ce palais comporte une pièce très particulière, celle où je me trouve, une pièce baptisée PC Jupiter dans le monde d'avant. Elle a été construite il y a 100 ans, du temps où l'on craignait un autre de ces nuages mortels, un cataclysme nucléaire. Ce PC Jupiter devait permettre au président de se réfugier ici, si tout le reste de l'humanité était touché. Tout était prévu pour tenir aussi longtemps qu'il le faudrait. Des portes parfaitement étanches, ne laissant passer aucun gaz, un système autonome d'oxygène, d'électricité, et bien sûr, de quoi manger et s'occuper. Une bibliothèque, un cinéma, une cave à vin. Je pourrais donc attendre tranquillement ici, à l'abri, que le nuage passe. Il serait tout de même dommage qu'un équipement aussi sophistiqué reste sans utilité, ne trouvez-vous pas? L'ancien président ignorait évidemment tout du Pandorium et n'a pas eu le temps de venir s'y cacher.
Zizo essayait de ne plus regarder Ogénor, de ne presque plus l'écouter pour se concentrer sur chaque détail du PC Jupiter. Les murs de béton et d'acier derrière l'empereur, les dossiers empilés sur les étagères, le vase d'immortel. Il devait absolument trouver une idée.
Le moment est venu, mesdemoiselles, de vous dévoiler ce que j'attends de vous. Vous avez pu le constater depuis que vous êtes arrivés dans mon sérail, je sais me montrer particulièrement généreux. Vous portez en vous les enfants du nouveau monde nouveau, les seuls à l'abri dans votre ventre, qui survivront aux nuages. Comme nous y avons survécu. J'aurai besoin de vous, comme nous avons eu besoin de Marilune et de quelques autres adultes, pour élever les enfants survivants. Vous m'imaginez sortir de mon bunker, une fois l'humanité exterminée, et devoir m'occuper seul d'une petite vingtaine de bébés?
Ogénor laissa éclater un rire sinistre qui glaça d'effroi le sérail.
Vous êtes les nourricières, mesdemoiselles. Vous êtes les meilleures pour ce rôle que je vous ai confié. Vous avez été entraînées depuis des mois. Vous serez des mères parfaites. Je vais maintenant vous révéler le plus important des secrets. Alix, votre gentille reine déchue, conserve sur elle, bien cachée, une jolie petite boîte que Jacques, le dernier adulte vivant, lui a confiée. Une jolie petite boîte contenant des pilules jaunes que notre dévoué astronaute a fabriquées avec son trophée de Pandorite. Un antidote qu'il a refusé d'offrir à Pierre Sol ou à Silver, ce petit égoïste. Sans doute les gardait-il pour une grande occasion. C'en est une, assurément. Je te fais confiance, Alix. Tu ne vas pas tout garder pour toi, n'est-ce pas? Tu vas les distribuer à toutes tes amies. Et je vous fais confiance, mesdemoiselles. Je sais que vous accepterez d'avaler ces pilules afin que vous puissiez survivre quelques années, pour que votre enfant puisse naître et vous le connaître, l'élever, l'aimer. 5 ou 6 ans de survie, ce n'est pas beaucoup, je le reconnais. Mais pensez à ces milliers d'hommes et de femmes qui ignorent encore que dans quelques minutes, pchit, ils vont respirer et tout sera terminé. Pensez à votre privilège. Pensez à ces millions d'êtres humains qui vivront, grâce à vous, dans 100 générations. Pensez que si vous laissez mourir ces bébés, vous laissez mourir l'humanité.
L'écran s'éteignit. Ogénor disparut. Il utilisait le même procédé que Marie-Lune et ses vidéos pendant des années. Zizo essaya, pendant quelques secondes, de ne rien regarder d'autre que l'écran noir. Quelque chose l'avait interpellé dans l'aménagement du PC Jupiter. Un élément du décor, un détail anodin, sans qu'il parvienne à l'identifier. Il était pourtant persuadé d'avoir mis le doigt sur une faille, même minime, à exploiter. Le regard des nourricières, à l'inverse, avait délaissé l'écran géant. Tout s'était tourné vers Alix, comme si la voix d'Ogénor résonnait encore. « Alix, votre gentille reine déchue, conserve sur elle, bien cachée, une jolie petite boîte, un antidote que Jacques a refusé d'offrir à Pierre Sol. »
« Tu crois qu'il y a des caméras ?» fit Alix. « Tu crois qu'ils nous regardent ?»
La question obligea Zizo à abandonner son exploration mentale du PC Jupiter.
« Sûrement. »
L'ancienne reine sortit de la poche intérieure de sa tunique brodée la boîte contenant les fameuses pilules jaunes. Son secret. Les nourricières fixaient le coffret de fer comme s'il s'agissait de la seule bouée à laquelle se raccrocher. Zizo réalisait que, comme d'habitude, Ogénor n'avait rien laissé au hasard. Bien entendu, toutes ces filles allaient avaler cet antidote pour survivre au moins quelques années. Qui ferait le choix de la mort immédiate quand il existe une possibilité de retarder l'échéance?
Il y en aura assez pour tout le monde ? Demanda bêtement Zizo.
Alix sourit tristement avant de répondre.
Je crois, pour tout le monde, sauf pour moi.
Le cœur de Zizo bondit dans sa poitrine.
« Comment ça, sauf pour toi ?»
Il avait haussé la voix, sans même s'en apercevoir, mais son cri avait surpris les nourricières. Et périt. Depuis le début du long monologue de l'empereur, l'enfant dormait dans les bras de Carmine, mais le cri de Zizo l'avait réveillé en sursaut. Les pleurs du garçon couvrirent la réponse d'Alix. Un instant, Zizo voulut attraper cette boîte des mains de son amoureuse, compter les pilules, discuter. Était-ce vraiment la seule solution? Obéir à Ogénor, suivre son plan à la lettre? N'y avait-il pas une autre façon de lutter contre... Assourdi par les pleurs de Perry, il avait compris. Il avait repéré un détail inattendu dans le PC Jupiter. Une petite licorne de bois était posée sur une étagère. Pourquoi Ogénor s'encombrait-il d'un tel objet dans son bunker? Pour une raison simple, évidente. Il voulait éliminer tous les êtres humains sur Terre, y compris les bébés clandestins nés dans les corporations. Mais il ne pouvait pas tuer son propre enfant, sa propre descendance, son sang pur qui irriguerait son terrifiant nouveau monde nouveau. Il ne s'enfermerait pas seul dans son bunker. Il y inviterait forcément Sélénée. Et Zizo savait où Sélénée se trouvait. Il venait de la quitter, dans la cellule de Chrysanthe et Bill. Ogénor allait confier à ses gardes le soin de lui amener la fillette avant de se réfugier dans son bunker et que plus personne ne puisse y entrer. Il lui restait une chance. Il marcha vers la porte aussi vite qu'il le put. La piqûre de Moebia était efficace. Sa jambe ne le faisait plus souffrir.
« Essaye de retenir Ogénor autant que tu le peux » cria-t-il à Alix. « Rappelle-le ! Raconte-lui n'importe quoi pour qu'il rallume son écran. Il faut juste gagner du temps !»
Alix n'eut pas l'occasion de protester. Zizo sortait son trousseau de clés. Ogenor ne devait plus faire confiance à personne, à part Django et Idriss. C'était donc eux qui avaient refermé la porte du sérail. Eux qui ramèneraient Séléné à l'empereur. La voie était donc libre, et il connaissait le chemin pour rejoindre la cellule de Chrysanthe et Bill. La porte voûtée avait été verrouillée, mais Zizo l'ouvrit sans difficulté. Il se précipita vers l'escalier sans ressentir la moindre douleur à la cuisse. Il avait par contre l'impression qu'une pointe d'acier s'enfonçait dans son cerveau. Un macabre pressentiment envahissait ses pensées. Jamais Chrysanthe n'abandonnerait son enfant. Idriss et Django n'auraient alors pas d'autre choix que de la tuer.